Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ningekuwa wa hatada. Nashindwa na mali sina we.
Radio Galère, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour auditrices et auditeurs de Livres et Amis pour l'émission du 18 mai 2022. C'est presque l'été à Marseille, on va commencer à reprendre ses quartiers d'été et Radio Galère prépare la fête de ses 40 ans pour septembre. En attendant, festivals et autres fêtes se préparent aussi. Pensons également aux législatives de juin. Le gouvernement, il faudrait bien, lui aussi, dans un autre sens, il faudrait bien lui faire sa fête. Enfin bon, en littérature et en politique, je voulais aussi vous signaler un article, enfin un entretien avec Annie Ernaux dans le numéro de Politis de la semaine écoulée, donc le numéro du 12 au 18 mai. Un article entretien avec Annie Ernaux à propos de son dernier livre qui vient de paraître. Vous savez, Annie Ernaux, nous avons lu certains de ses livres déjà sur l'antenne et c'est une écrivaine engagée, comme on les aime, Livres et Amis. Pour ce 18 mai, nous allons faire une petite pause hors de l'actualité, une pause à la fois poétique et narrative, avec un petit livre déjà ancien de Michel Serres, Nouvelles du Monde. Et Nouvelles du Monde, c'était déjà lors de sa parution en 1997 un titre un peu ironique. L'ouvrage a été réimprimé plusieurs fois en poche chez J'ai lu, et relire aujourd'hui Nouvelles du Monde de Michel Serres, c'est au contraire ne pas se pencher sur les nouvelles d'actualité, mais plutôt prendre de la distance, revenir à des réalités et même à des vérités loin des sentiers battus. C'est retrouver avec lui des images et des récits qui nous plongent dans les racines de la condition humaine et qui rétablissent le contact avec la nature et la planète. Michel Serres, né en 1930 à Agen, mort en 2019 à Paris, est un des grands esprits de notre temps, un de ces honnêtes hommes qui se sont passionnés, se passionnent encore pour les lettres, les sciences, la philosophie et surtout qui observent l'état du monde. La plupart de ces ouvrages appartiennent à cette catégorie de la vulgarisation intelligente et humaniste qui permet à chacun ou à chacune d'entre nous d'être aussi un grand penseur. Tiens, au fait, c'est quoi le féminin de un grand penseur ? Bon, passons. Et revenons à Nouvelles du Monde. Nous allons, Françoise et moi, en lire de larges extraits pour retrouver la verve de Michel Serres et d'abord, au début, son amour d'enfance dans le sud-ouest, son amour pour Garonne.
Têtu, Denis Montignac, vieux patron marinier, a tant aimé son fleuve qu'il ne veut pas mourir avant de voir tous les autres. Jeune, il avait conçu de la jalousie envers la Loire, presque aussi belle, regrettait-il, que sa Garonne natale. Mais aujourd'hui, la splendeur des énormes rivières du monde le comble. Depuis sa retraite, il court les latitudes, visite le Zambèze et ses chutes, le Nil et ses cataractes, remonte l'Amazone et le Saint-Laurent, navigue sur la Volga et sur le Huanghu, traverse le Yukon sur la glace et fait ses délices des bouches arctiques du Mackenzie. Ainsi, Vient-il de tomber amoureux de l'amour au bout de la Sibérie ? Je reconnais une à une, dit-il, mes artères et mes veines. Découvrirai-je, avant que le mien s'arrête, le cœur de la terre ? Et Denis ne décolère pas. Comme tous les anciens pratiques du fleuve, il habite à même le quai Baudin, au rez-de-chaussée, à 3 pas du lit, et tous les matins, avant que le soleil ne se lève, comme ses ancêtres l'avaient toujours fait, par sa fenêtre basse, il interrogeait d'un regard expert l'état de la Garonne. Nul ici ne dit « la Garonne ». Même l'artiste qui sculpta le monument si au centre du jardin Louvois, face à la Bibliothèque nationale à Paris, le savait, puisqu'il y associa, dos à dos, 4 femmes nues et debout, la Seine, la Loire, la Saône et Garonne, la dernière sans article, comme une grande personne. Il ne décolère pas, car depuis 4 ans maintenant, sa fenêtre bute sur un mur aveugle. Il veillait sur l'eau et il ne la voit plus, car l'administration et la technique conjuguèrent leur puissance pour élever juste devant sa maison une digue haute d'environ 3 mètres pour protéger sa ville et sa porte de son fleuve. Il en pleure. À l'endroit même où une vue large sur l'eau et la rive d'en face lui donnait, comme à ses pareils et à sa famille depuis des générations, la réponse à ses interrogations matinales, son nez se heurte à du béton sombre. Il bougonne. « Pas étonnant que mon métier disparaisse, que mes fils et filles aient fui vers les grandes villes et que les personnes d'importance ne s'occupent que de dossiers. Pourquoi toujours un mur devant la réalité ?» Il pose sur la table, en face, un livre d'histoire qu'il vient de finir, où l'auteur raconte qu'à l'avènement du train, les compagnies ferroviaires réussirent à faire interdire sur Garonne les bateaux de voyageurs. Déjà, décidément, la France déteste l'eau, douce ou salée, pays qui ne comprend rien à la marine. Mais il s'apaise souvent. Protectrice et douce, cette digue voile aussi sans doute l'heure de ma mort. Et à son ombre, Denis rêve et s'endort.
Il s'endort et...
Denis s'endort.
Et il se réveille,
raconte. Draguer du sable et concasser des cailloux, voilà mon vrai métier, le seul que j'ai jamais vraiment connu. Des cailloux cassés pour l'encaissement des routes, du gravillon pour leur revêtement, du sable gros pour le béton et du plus fin pour les enduits. Cette profession suppose de naviguer sur les fleuves à tout niveau, d'en connaître les fronts de taille sous l'eau, de manier dragues et suceuses, grues et bandes transporteuses, chargeurs et camions poids lourds. Jamais doux, toujours dur, métier de bagnard. J'ai commencé, je m'en souviens, à l'époque des chevaux et des massettes. Oui, combien ai-je ri d'entendre un jour qu'ils passaient là, en vacances, des étudiants louer leur professeur de préhistoire d'avoir retrouvé la technique de la pierre taillée. D'un choc sec, disait-il avec admiration, le maître ouvre le cristal selon la ligne de clivage. Quelle adresse ! Il pensait que nous avions perdu le coup de main depuis des millénaires, alors que toute mon enfance avait accompagné les ouvriers qui, du matin au soir, cassaient des cailloux, des lunettes en grillage à cheval sur le nez, pour protéger les yeux des éclats de granit et de silex, tous extraordinairement experts pour en séparer les morceaux selon l'angle d'attaque de la massette. Ils en ouvraient des éclats, d'un seul coup à droit, comme de grosses noix. De quand dater leur existence et la mienne, du néolithique ? Plus récent qu'ils ne le croient, murmure Denis. Denis s'endort et rêve encore du paysage. Étroit d'abord en montagne ou dans les gorges, le lit large de l'eau s'élargit entre les serres et, plus fertile peu à peu, déploie ses champs de maïs et de tabac. Quelques détails que montrent les villages ou les terres cultivées ne paraît nulle trace d'industrie ni de manufacture. Mis à part les travaux connexes qui, en arrachant les haies et les rideaux de saules et de peupliers, agrandirent les emblavures, le paysage resta stable pendant des centaines, peut-être des milliers d'années. Disparu partout et deviné ici, transparaît dans l'espace comme un voile pieux, une antiquité sereine. Toujours porté entre leurs deux hanches, me suis jamais levé de ces collines au nom desquelles je naquis et au milieu desquelles mon temps filtre encore, même si je traîne, instable dans des continents lointains. Que je revienne, et aussitôt je me couche le long de ma mère, ma sœur, ma fille, mon amante, la rivière. Prends mes appuis du coude et des genoux à la base des coteaux, place mes organes parmi les pêches, les raisins et les prunes, la tête à la source du fleuve et les pieds à son embouchure, bras et mains suivant les affluents, ventre collé au bassin fluvial, et laisse aller mon sang avec le courant. Autrefois accouché par le flux, je coule comme lui, et en lui enfante les eaux différentes. Si partout ailleurs vole mon esprit vif, ici gît mon corps. Terré parmi les auteurs paysans de ce paysage ancestral, que saurais-je écrire d'autre que ces douces lignes aux pages d'argile, l'horizontalité calme fleurie au printemps, cette descente entêtée qui s'emporte souvent, cette beauté d'automne bénie qui s'apprête à disparaître. Pour encore quelques instants courts, dans la quiétude, ailleurs assassinée, ici je demeure.
Quelques pages donc sur l'eau, le fleuve, le vieux marinier. Des tableaux d'une nature qu'on souhaiterait quelquefois intangible. Michel Serres nous en donne aussi des images en Bretagne, puis dans les Alpes italiennes, avec un guide devenu mythique, Terzilio. L'histoire de Terzilio. Bien avant que commence la dernière guerre mondiale, sa souplesse, sa force, son endurance et son talent de grimpeur l'avaient poussé à choisir le métier, assez rare encore en ces temps, de guide en haute montagne. Éleveur et cultivateur, son père, comme tout habitant des Alpes à l'époque, ici ou de l'autre côté de la frontière, haïssait un sport qu'il tint pour frivole et servile, jusqu'au jour où son fils lui montra qu'il gagnait la valeur d'une vache par course ou par jour. La famille ne se remit pas de la liasse qu'elle entrevit ce soir-là. Mais le mal était fait. Indigne et méprisé, le jeune homme prodigue avait quitté sa famille, puis avait traversé les crêtes, parce que, alors, en France, une mode irrésistible poussait les riches, venus des grandes villes, et même d'Angleterre, à courir les glaciers et les sommets en été, ou les pentes de neige en hiver. En quelques années, il compta parmi les plus fortunés des vallées alentours. À peine avait-il oublié son indigne exclusion que, respecté, admiré, courtisé, adoré des jeunes et des femmes, il les traînait derrière sa courte taille, sa carrure puissante et son alerte démarche. On payait cher pour suivre Terzilio comme guide ou moniteur. Savoir franchir les crevasses en souplesse lui avait valu de passer rapidement les abîmes autrement plus redoutables, de la bouse à la soie, de la grange au casino. Or, sans crier gare, la Seconde Guerre mondiale tonna. Piémontais de naissance, il ne put rester en France, dès que les deux pays, en ces années sombres, s'opposèrent. Mais inversement, savoyard de langue désormais, d'amitié aussi et surtout de fortune, son retour en Italie posait des problèmes insolubles. Ici ennemi, mais férocement jalousé là, il dut se cacher des deux pays et des deux populations en parcourant les crêtes frontières, elles-mêmes surveillées, les armes à la main, par les chasseurs alpins des deux camps. Une troisième vie pour lui commença. Autant il occupait le centre de la gloire, autant il devint alors la cible de tous les fusils, rival commun aux belligérants. Chassé comme exclu, mais aussi chassé comme gibier. Désé, il devint le plus pauvre des hommes, car les uns et les autres lui faisaient payer 100 fois le pain et le lait qu'il devait acheter à la dérobée. Il descendit de la fortune au comble de la misère, ne survivant qu'en marge et fort mal, en tiers entre les deux pays, considéré partout comme traître et déserteur. Il payait le règne qu'il avait connu par une persécution en règle. Il dut se déguiser souvent, et nul ne reconnaissait ce vieillard monégasque, ni ce berger suisse égaré, ni ce curé venu de loin bénir une étable, ni ce pasteur des vallées protestantes citant la Bible à contretemps, ni ce paralytique suppliant, ni ce bossu niais ou ce sourd muet. cet homme des neiges sans feu ni lieu, errant et famélique parmi les hauteurs inaccessibles. Loin de le rendre amer, ce passage de la gloire à la misère lui avait enfoncé dans la tête des semences dures de miséricorde. Lié à un camp, il eut peut-être épousé leur haine stupide. Mais connaissant les deux parties, aimant sa famille sur l'un des versants et le souvenir de ses amours de l'autre, il prit pitié de leur opposition. Car il connut là les pires ordures de la guerre. Entre un fortin et celui d'en face, tout aussi hérissé d'armes, entre une casemate et celle de l'ennemi, gisaient des no man's land aux parois verticales, aux glaciers crevassés, où l'on saignait sans soin, où on avait soif sans recours, où se prolongeaient les souffrances jusqu'à des tortures indicibles. On n'y ramassait pas toujours les blessés, on n'y enterrait pas toujours les morts, on y laissait les douleurs hurler au soleil et dans le froid terrible et mortel des nuits. La guerre, partout ailleurs, était affreuse. Elle devint atroce dans les conditions difficiles de la haute montagne, comme elle aurait pu l'être en haute mer, où le vaisseau de fer et le fortin de pierre constituent les seuls recours. À la mort par chute ou par naufrage, parmi les gouffres de roc ou d'eau, s'ajoutent celles des canons et des balles. Habitant le désert intermédiaire de murs abrupts et de séracs noirs, en la seule compagnie des chamois et des choucas, il y fit l'immense découverte de la cruauté de l'animal humain, plus dangereuse que celle des orages et des avalanches. Habitué, en ces lieux, à porter secours en toutes circonstances, à une cordée en difficulté par exemple, il vit inversement à quel point l'homme bête est la même bête qu'elle, et pour mieux la tuer, la laisse crever sans pitié. Errant parmi cet espace à la limite du vivable, des malheureux le transpercèrent de compassion. Dissimulé en haut d'une vire étroite et vertigineuse, il assista un soir à une boucherie sanglante et inutile à la baïonnette. Et à la fin, les vainqueurs tailladèrent au couteau la plante des pieds des vaincus survivants pour qu'ils ne puissent plus marcher ni bouger, accrochés à la paroi ruisselante de sang. À partir de la semaine qui suivit, nul ne sut jamais qui avait secouru, puis guéri tel blessé, laissé pour mort non loin d'une cime, et ramené par miracle à quatre pas de la casemate. On ne sut jamais quel fou avait assez d'audace pour ramasser entre les lignes, par des parois impossibles, des souffrances pantelantes. Quel sauveteur portait à boire et à manger de nuit à des bivouacs où quelques éclaireurs finissaient de vivre les jambes brisées. Quelle bouche secrète passait les murs de glace pour avertir les soldats des deux camps d'une attaque de l'autre et réduire ainsi le nombre de morts. Tenace pendant ces mois de guerre, une légende alors se mit à courir parmi les chasseurs en armes sur les crêtes, évoquant un fantôme invisible et bon, une âme des Alpes, souveraine, qui avait déclaré la guerre à la guerre, une sainte vierge qui, portant une croix rouge sur le bonnet, multipliait partout prodiges et miracles. Quand la guerre s'acheva, Tertilio reprit, tranquille, son ancien métier. Tout le monde oublia les années de guerre, car chacun pardonne aux autres le mal qu'il leur fait. Prudent, il choisit ses clients, se montra peu, enfin se retira dans l'auberge de sa femme, d'où il part maintenant quelquefois vers les sommets du Monte Viso. Il préfère l'automne et l'éternité bleue des courtes journées ensoleillées d'octobre. C'était un simple portrait, mais un récit édifiant à la fois, cette histoire de Tertilio. Et elle nous a bien amené dans sa réalité historique et dans son terroir. Elle est originaire de ce terroir et en même temps, elle prête à la généralisation philosophique. C'est aussi le cas de paysages qui apparaissent au fil des pages comme des jalons sur les traces d'un penseur qui arpente le globe. Ici, par exemple, dans la lecture qui va suivre, nous allons trouver l'envers du paysage et nous retrouverons ensuite la trace des tremblements de terre et des rapports entre la nature et l'architecture.
Dentelle, belle de matière inerte que travaille le temps des vivants et l'histoire des cultures, et dont l'information sensorielle, appel, odeur et teintes diverses, traverse le tissu au sans-pli, le paysage fragile, en déséquilibre sous sa sérénité tranquille, s'expose au risque de s'effondrer. Que deux ou trois plaques profondes tremblent sous lui, et la terre semble vouloir se débarrasser de cet entrelac précaire et aérien, comme d'habits superflus, dont les chiffons se déchirent et chutent aussitôt parmi le grondement d'orgue de ces chocs et de leurs ondes. Alors, sous les apparences à grand-peine dessinées, depuis des millions d'années, par la faune et la flore, les paysans, les ouvriers, les architectes et les jardinières, mais détruites en un moment, se perçoit l'envers du paysage, ce qui cache et comment il se comporte sans homme. Un voile se déchire, une barrière s'abat, une frontière s'ouvre devant une réalité jamais vue, pendant que cesse la condition habituelle d'aveugle et de sourd. Apparaît une vérité que la planète, fondamentalement nue, cherche à faire entrevoir volontairement. Comment nommer le terrain découvert sous ces ruines et dont nul ne sait dire en ce jour de colère et de joie s'il porte la fin ou le début du monde ? Il manque à la langue, sur ce point trop sage, un mot pour désigner ce qui gît sous cette découverte, au sens que donnent à ce terme non les dictionnaires, mais dans leur pratique journalière, les extracteurs de sable et gravier, les carriers, les mineurs, les professions de travaux publics, dont le premier travail consiste à extraire la couche de terre superficielle au-dessus du matériau, plus ou moins précieux, à exploiter. Comme ce manteau cache le stock, son enlèvement précède l'extraction. Ainsi, le tremblement de terre collabore à la découverte de ce lieu, fondamental et sauvage, où toute intervention humaine s'annule et s'efface. Jardin soigné sous une latitude sans risque majeur, la France fait silence sur ce terrain au-dessus duquel ses paysages, vivants et humains, élèvent et tressent leurs belles dentelles.
Pas de tremblement de terre en France donc, mais par contre, allons voir au Japon. 6 à 80 km environ de la ville de Kobe, Kyoto retentit au tremblement de terre de 1995, dont l'étrangeté donna aux ingénieurs tant d'inquiétudes et aux géophysiciens des problèmes renouvelés. Un de mes amis habitait avec sa famille dans l'immédiat voisinage du zoo de Kyoto. Une grille seulement séparait les cages de sa maison. Je connais bien ce jardin pour y avoir suivi tout un après-midi ensoleillé d'automne les amours adamiques et triangulaires d'un père girafe avec sa fille et la mère en arrière-plan. Mais un jour, advenu avant que le soleil ne se lève, le séisme fit entendre son bruit chtonien habituel, comparable aux notes les plus basses de grandes orgues, accompagnées des claquements consécutifs aux effondrements, chutes et destructions de toutes choses, mais surtout, là, du brouhaha et du tohu-bohu confus des animaux affolés par les chocs. Lions, gorilles, tigres, chameaux, reptiles, bouquetins, vertébrés de tout poil et volatiles de tout plumage, rugissaient, feulaient, hurlaient, bramaient, blatéraient, sifflaient, pépiaient, beuglaient, comme une jungle étrange revenue aux angoisses naturelles de la terre. Entendez-vous ce concert désordonné ? Clameur du sol, explosion et fracas des ruines, écroulement et rupture, appels et cris des groupes et des personnes, couronnés par le charivari chaotique des bêtes, sur le fond du silence primitif de la nuit. Faut-il déchiffrer là un message de l'enfer terrestre, comme certaines musiques indiquent un paradis perdu? Sortis vite du lit, échappés des murs à risque, les enfants comme les parents crurent à ce moment, devant la grille effondrée, que profitant des brèches et des catastrophes, un troupeau innombrable, dangereux et clamant, allait se ruer sur eux et envahir la maison. Anxieux, les adultes cherchèrent d'instinct comment s'en défendre et vécurent la terreur d'être dévorés crus. Confiants, au contraire, La fille et le fils, qui connaissaient les mœurs des animaux et avaient depuis longtemps donné un surnom à chacun, les considérant volontiers, sinon comme des jouets en peluche, du moins comme des commensaux, et se montraient enchantés de recevoir enfin ses vieux amis dans leur chambre. Épouvante ou chance rare d'un ménage changé en ménagerie. Mélange terrifiant pour les parents, mais pour les jeunes, une aubaine de les réunir tous dans un nouveau jeu des familles et d'avoir à table, comme des gravures de leurs livres de fables, la girafe suréchasse, la panthère athlète et le vautour au cou désolé. Cela valait bien de se lever avant d'avoir fini les rêves pour les perpétuer réveillés en voyant les adultes plongés dans un cauchemar. Ces sentiments opposés partagèrent la famille à l'apex du tremblement de terre, enfer ou paradis. Le croira-t-on ? Accoutumés à leur esclavage et comme drogués d'immobilité, les bêtes ne quittèrent fosse, cage ni volière, même lorsque les barrières s'en trouvèrent démantelées. Elles hurlèrent sans bouger, comme si elles attendaient que les grilles reviennent, aveugles à leur présence et donc à leur disparition. Par de telles transparences, claustrées dans les écoles, les villes, les métiers, usages, mots, pensées, les abandonnons-nous jamais, même à l'article de disparaître, même sous l'impact d'un accident intense ou imprévu. Nous ne laissons pas aller jusqu'au désordre des plaintes. La peur du chaos nous rapproche de ces bêtes oublieuses de la jungle ou craignant d'y revenir. Alors, où se trouvent l'ordre et le désordre, l'enfer et le paradis ? Car la jungle elle-même, que naïfs nous croyons mêlée au pêle-mêle et au désarroi, rend-elle invisible des grilles renforcées par ses muettes lois ? La réponse peut être un petit peu plus loin.
Le paysage occidental diffère de l'extrême-orient par un simple et doux fragment de courbe qui fait succéder une montée à une plaine ou dont la fine transition se place ou se cache au voisinage du lieu où une descente s'achève, premier ou dernier lacet. Nous pouvons nous offrir des vallons et des bosses parce que nous y plantons et semons la vigne ou le blé, qui ne demande pas de lac, alors que le riz assujetti à la stricte horizontalité de l'eau. Avant de s'attaquer à l'agriculture, le génie civil asiatique doit araser les pentes et aplanir les profils, compenser les rangs blés et des blés avec exactitude en les tirant au cordeau ou au niveau à eau. Le mélange de la terre arable à la liquidité soumet tout accident à la loi universelle du plein et de l'uni. Éventuellement plissé, le sol laisse place au plan d'une piscine ou le désordre naturel à l'artificielle et laborieuse perfection d'une géométrie. Ainsi s'en trouve changé le contact, le voisinage immédiat des montagnes et des plaines, le lieu précis où celle-là rencontre celle-ci, alors que nous laissons la courbure en question faire la transition entre le plat et la pente, la colline et la vallée, à l'attaque d'une côte vers un col. Chinois, indonésiens et japonais font reposer directement les monts en demi-sphère ou cône sur des champs aplanis avec autant de rigueur que des plans du géomètre. L'intersection brutale et sans courbe des rampes et des plaines étonne l'occidental sans qu'il s'en rende compte. J'ai mis plus de 30 ans à la voir. Contrairement à l'attente, cette simple catastrophe d'une ligne droite qui succède à une oblique parfois ronde donne une paix sereine à l'espace que nos plis tourmentent et que tordent nos transitions. En Extrême-Orient, la rizière obligea le cultivateur à se faire ingénieur et géomètre avant que le Nil n'impose aux paysans occidentaux de réinventer la géométrie par ses eaux à nouveau. Qui croit le plan abstrait oublie l'horizon aquatique. Au bord du toit des pagodes, le même fragment de courbe se retrouve. Nous construisons par rectangles et carrés, cubes et parallépipèdes, sphères et voûtes, parmi un paysage plissé, abondant d'événements accidentels, bosses et vallées. nos courbes vallonnées de la terre ne passent pas à la pierre. Inversement, l'Asie traditionnelle aime construire plutôt courbes, comme les tuiles des temples, dans un paysage où la géométrie impose des plans, comme si elle retrouvait dans ses bâtisses les éléments éliminés par le riz et l'eau. Dans les deux cas, l'agriculteur donne à l'architecte ce qu'il a ôté au sol. Ainsi, notre paysage se lit dans leurs bâtiments et nos bâtisses disent leur paysage.
Nature et architecture, donc. Mais revenons à la nature et écoutons Claude Nougaro qui nous chante Garonne.
Qui s'écoule comme un tapis roulant. Moi, mon océan, c'est une Garonne, la grande personne dont je suis l'enfant. Ma Méditerranée, c'est une Garonne, née comme trois pommes dans les Pyrénées. Un berceau de roc pour un filet d'eau, trois syllabes d'oc évoque le flot. C'est une Garonne, c'est une Garonne, c'est une Garonne. C'est ce fleuve lisse dont je suis l'Ulysse sans exagérer. Le ciel sur son dos et la pollution, allons à Bordeaux trouver solution. Moi ma caravelle c'est sa rive belle, là où l'hirondelle vient pondre son œuf. Ma vague émeraude, c'est une Garonne, quand elle se fait chaude au bras du pont-neuf. C'est une Garonne, Garonne, c'est une Garonne. Moi ma caravelle, c'est sa rive belle, là où l'hirondelle vient pondre son œuf. Ma vague émeraude, c'est une Garonne, quand elle se fait chaude au bras du pont neuf. Et faut pas que j'oublie quand elle bouillonne, comme une Amazone chevauchant son lit. Mon Man River, c'est une Garonne, quand elle ronronne tout près de mon cœur. Ma mère Océane, c'est une Garonne, quand elle résonne d'un air de dame. Dame d'une Garonne, c'est une Garonne, c'est une Garonne. Garonne.
C'était donc un retour en musique à Garonne. Nous allons retrouver le sud-ouest avec les Landes, mais nous en éloigner bien vite pour des horizons beaucoup plus lointains, avec un autre titre ironique, Tarzan.
Moi, isolé, jamais de la vie. Le monde entier se donne ici rendez-vous. Depuis que les gémeurs ne saignent plus les pins pour que la résine s'écoule dans un pot attaché au tronc au-dessous de la blessure et ne traverse plus régulièrement la forêt des Landes, celle-ci, envahie de taillis inflammables, s'endort dans la solitude et le silence. Les longues routes droites qui la trouent, comme des coups de fusil, bordent des zones désertes. Au milieu d'un massif que l'on jurerait abandonné, dans une maison basse dont il occupe l'unique pièce, Francis Lacroix passe ses dernières années à contempler fougères et cerfs. Que fait-il là ? Il ne chasse même pas. Isolé ? Laissez-moi rire. Je corresponds avec des amis forestiers de Colombie-Britannique, de Sibérie, de Malaisie, du Zaïre, de l'Amazonie. Lorsque l'un d'entre eux veut me montrer quelque chose de notable, il m'invite, je fais une coupe de bois et le prix de vente paie l'avion. Non, monsieur Pierre, je verrai plutôt trop de monde, car ils viennent aussi, un à un, visiter les merveilles autour de mes pins. À force de tourner par les chemins de terre et les saignées contre feu, Pierre d'Haricot a fini par découvrir l'antre de François. Il lui demande s'il veut bien travailler, sous sa direction, à un nouveau chantier au Vietnam. Hanoï vient de décider de remettre en production les plantations d'EVA. La guerre finie, les questions politiques apurées, il faut bien produire. L'autre hoche la tête. À une question plus indiscrète de son patron et ami. Marié, répond-il, voyons, je le suis, mais avec Sylvie. Pierre comprend qu'il s'agit du nom de la forêt. Il laisse François dans le silence de l'hiver. On ne lui connaît ni ennemi ni proche. Il dort peu, ne boit ni ne fume. Prudent et courbé, il traîne sa haute silhouette maigre et dégingandée dans les clairières du monde entier. De plus, il a pris l'étrange habitude d'habiter sur place, sur les chantiers même où il dirige hommes et machines. Devenu sauvage, une sorte d'homme des bois, il a conquis une pratique, une expertise, oui, exceptionnelle. Des essences, de la faune et de la flore de la forêt vierge, le long de toutes les longitudes. Sans l'exploiter, il paraît garder ce savoir au secret. Combien de fois lui ai-je dit de publier ses observations ? Nous y apprendrions tous mille choses, mais il me répond qu'il ne sait pas écrire. Lorsque donc j'ai besoin d'une information que l'on ne trouve pas dans les livres, je la demande à François, qui manque rarement de me répondre avec précision. Jamais de baratin théorique, des faits, rien que des faits. Certains, précisément, l'appellent Tarzan. 15 mois après la décision, nous voilà donc à pied d'œuvre pour attaquer les travaux qui doivent durer 5 ans, avec plus de 700 ouvriers, une masse impressionnante de matériel et des bureaux volants. En collaboration avec 2 ingénieurs gabonais, François commande sur place et sous les instructions du ministère compétent, je dirige le bureau central au bout de la route à Libreville.
Oui, en fait, on a quitté Hanoï et le Vietnam pour le Gabon, mais le travail est le même, il s'agit de récolter le caoutchouc des EVA.
Nous décidons de nous rencontrer toutes les semaines dans cette clairière mobile qui se déplace à mesure que le défrichage avance. Il abat les arbres de la forêt vierge et derrière lui, j'organise le reboissement en EVA. Il m'arrive donc de rester longtemps sur place. Contigu aux 2 premiers, un 3e chantier construit la route à mesure d'avancer. Pour ne pas rompre avec ses usages, en bordure des espaces ainsi défrichés, François a bâti une sorte de hutte transportable où il installe un lit de camp, un réchaud, quelques livres, 2 lampes, rien que de très franciscain. Au bout de quelques semaines, nul ne s'étonne plus que ce contremaître singulier ne quitte jamais ni le chantier ni le sous-bois et dans cet environnement difficile dorme seul la nuit. Car le soir, les ouvriers rangent les bulldozers et les tronçonneuses sous une tente immense qui les protège de la pluie et partent en camion dormir dans un village aux confins de la lisière. L'aventure débute, elle va son train. Des mois se passent, sans accident plus notable que les incidents usuels en de telles entreprises. la pluie, la boue, les vivres qui arrivent mal, les malades, les blessés. Au début de la seconde année, je comprends que François change. Il ne parle, ne marche ni ne travaille comme avant. Plus voûté que jamais, il lui arrive de tituber comme s'il allait tomber. Alors, il s'appuie longuement aux chenilles des tracteurs. Il ne se rase plus. Énervé, il oublie les consignes et laisse aller parfois la discipline du travail. Cela ne lui ressemble pas. Puis, de temps à autre, il quitte l'équipe et va errer alentour au milieu des bois. Il en revient hagard et songeur. Je le connais assez pour ne pas m'inquiéter. Boit-il ? Se drogue-t-il ? En tout cas, il se conduit avec une certaine hébétude, comme habité de préoccupations sans rapport avec le chantier, dont il parle de plus en plus mal. Que se passe-t-il ? A-t-il contracté quelque maladie équatoriale ? Interrogé, il feint de ne pas entendre la question. On dirait qu'il plonge dans un autre monde. Si d'autre part, j'arrive de bon matin, je le trouve dispo et aussi présent que jadis et naguère, mais si à l'inverse je viens l'après-midi, je ne peux lui parler tant cette tension d'absence l'empêche de faire attention. Il paraît attendre impatiemment l'heure où le travail s'arrête. Que se passe-t-il donc le soir quand le dernier camion, en faisant taire le tonnerre des machines, rend à la virginité des lieux ces bruits terrifiants et perpétuels ? Décidé d'en avoir le cœur net, je fais semblant un beau soir à la débauche de quitter les lieux et je me cache au milieu du matériel dans la tente. Après tout, si je fais chou blanc, j'en serai quitte pour une nuit sauvage. Voici. Le premier soir, au coucher du soleil, je vois François se retirer dans un coin ouest de la clairière temporaire formée par le déchiffrage et s'y tenir absolument immobile. Raide, les yeux étincelants, il regarde intensément dans la direction de l'est. De la tente où je l'observe, je ne peux voir ce qu'il regarde, mais ses yeux lancent des éclairs qui se mêlent parallèles aux rayons du crépuscule. Il faut attendre le soir du lendemain. Même manège, même position. Je pratique non plus un trou, mais deux dans la toile épaisse de la tente aux machines. Alors, je vois en face, côté est, un énorme gorille, un mâle monstrueux d'au moins 400 kilos, regarder François face au soleil avec autant d'intensité immobile que mon ami le contemple. Cela dure 5 minutes. Au bout de ce laps de temps, la bête se retire et j'entends François se coucher. Piqué, je reste les nuits suivantes. Fidèle au rendez-vous, le gorille revient tous les soirs, exactement à la même heure, quand les ouvriers quittent la clairière mobile. Et tous les soirs, à 50 mètres de distance, dans la gloire du couchant, ils demeurent ainsi à se regarder l'un l'autre comme des statues fascinées de plus en plus longtemps. À un moment, le rendez-vous, la rencontre, dure presque une heure. 4 mois se passent. Je vais, je reviens, je manque bien des soirs, mais à chaque retour, j'observe toujours. Je note que les regards progressivement changent d'intention et de nature. Agressif au début, méfiant, coléreux même, ou du moins volontaire, ils deviennent de plus en plus amènes. Cela va vers la douceur, et François, à la fin, sourit. Mais il ne bouge toujours pas. Un soir, pourtant, il fait un petit geste de la main. Alors le gorille, comme épouvanté, détale. Raté ? Oui, car ils reprennent le scénario complet à partir du commencement, comme si tout s'était effacé. 5 minutes immobiles, puis 7, 10, 15, etc. Il faut plusieurs essais avant que la bête supporte un seul geste. S'avancèrent-ils l'un vers l'autre ? Oui, cela prit des semaines supplémentaires, mais jamais ils ne se rapprochèrent de moins de 10 mètres. Distance respectueuse. La vie entière de François se résume dans cette observance de l'écart. Mais attendez le plus beau. Pendant une semaine, François reçoit la visite d'une sienne cousine qui l'héberge dans sa tanière. Issue des Landes comme lui et sans doute rompue à la vie en forêt, elle semble s'adapter à ses conditions nouvelles avec naturel et aise. Or donc, au cours de ces 8 ou 10 jours, mon ami se place en face de la bête en compagnie de cette femme qui témoigne d'un beau calme au cours de l'expérience. Je la vois même sourire avec enchantement. Au milieu de son séjour, elle a de plus l'idée vivent les femmes, d'apporter un grand panier de fruits qu'elles déposent à terre en quittant les lieux. Resté seul, le grand singe avance avec lenteur, regarde prudemment autour de lui, dévore une partie du dépôt et emporte le reste. Avant de repartir, la cousine recommence le manège et le gorille aussi bien. Et donc, un beau soir, je m'en souviendrai longtemps, le gorille arrive, toujours dans le même coin, toujours à 10 ou 15 mètres, toujours aussi cérémonieux, hiératique et rituel. Voilà l'impression maintenant que me donne sa raideur, mais accompagnée d'une autre bête. Je la regarde. Mon Dieu, une femelle. Sa femelle ? Ne me croyez pas si vous le voulez, mais tonnerre de tonnerre, j'ai vraiment vu, oui, de mes yeux vu, qu'il l'a présentée à François. Je ne vous crois pas, vous avez cru voir, voilà tout. Il ne faisait pas visite à la marquise, joli salon. D'autant que l'autre marquise venait de rentrer en France. Et pourtant, plus délurée peut-être, la femelle fait alors comme un pas en avant dans la direction de François. Elle paraît prendre autant d'initiative qu'en prit la cousine. Aussitôt, le mâle la saisit par le pelage du dos violemment et l'entraîne sous le couvert. Il faut recommencer de zéro encore ? Jusqu'à la fin, messieurs, jusqu'à l'extraordinaire, car un beau soir, la guenon esquisse un geste des épaules et du tronc avec un mouvement tournant des membres du haut, comme pour une invite à la suivre. Visiblement, le mâle accorde son aval. Surprise, quel courage, François les accompagne, sans crainte apparente. Il reste en marchant impassible. Les voilà partis tous trois, à la queue leu-leu, lentement, femelle en tête, sapiens au milieu, enfin le mâle en arrière-garde. Comme en couverture, sous l'ombre du bois, l'homme plus haut que les deux autres, mais tellement maigre et frêle dans les lianes, les plantes et les branches inextricables et par le bruit de fond accablant. Et alors, que fîtes-vous ? Je suivis leur procession, le long de leur brisée, à longue distance et sous le vent, pour ne pas les gêner, terrifiés. Et alors, que vîtes-vous ? Cette chose stupéfiante, à 1,5 mille de là, ou à peu près, sur une souche morte d'arbres renversés, se trouvent disposées des bananes, des mangues, d'autres fruits encore, que je ne distingue pas, sur d'énormes bouquets de feuilles vertes, oui, le dîner. Cela ressemble à un hôtel plutôt qu'à une table. Oui, les deux gorilles invitent François à manger avec eux. Et chez eux, en remerciement des corbeilles de la cousine, le forestier s'incline, s'assied, dîne, raide, la femelle dans le dos et le mâle devant. Quelle immobilité soudain parmi les allées-venues et courses de la jungle, quel silence suspendu dans les criailleries étourdissantes du bois, quel spectacle blanc et noir parmi la verdure des frondaisons et dans le jaune du soleil qui plonge verticalement sous l'horizon. Quel intérieur comme découpé dans le dehors, quel nœud dans l'arbre aux espèces, quel tableau, non, quel tabernacle, quel commencement de toute chose. Et quand il retourne à la clairière, comme soulagé, François vient me trouver sous la tente où je m'apprête à me coucher pour me remercier de l'avoir accompagné. Il m'avait vu le voir dès les premiers soirs, car il ne refusait pas d'avoir un témoin de cette aventure. Et pendant qu'il me parle, j'admire sur son visage comme une certitude. Je les aime, vous savez. Toutes les bêtes que nous préjugeons cruelles et sauvages montrent plus de mansuétude que nous, plus fortes et fragiles que nous. Le temps chez elles remplace le langage. Lenteur et patience leur servent de vocabulaire et de syntaxe. J'aime surtout leur infiniment subtile sensibilité, à la moindre alerte éperdue, à quel point ont-ils dû souffrir pour devenir ainsi écorchés, vulnérables et délicats.
C'était donc Tarzan et les grands singes. Restons en Afrique avec une autre historiette, celle du savant et du sorcier. Nous sommes au Nigeria. Passionné de science, le jeune infirmier Odoumé Abba l'avait bien mérité, cette bourse. Et quoique triste de quitter sa famille et ses amis, Il partit néanmoins l'esprit léger de son Nigeria natal pour suivre pendant 2 ans un stage de médecine dans un hôpital d'Édimbourg où firent merveille ses dons pour l'observation. Certes, il eut froid. Bien sûr, la neige et la pluie lui parurent pénibles et il lui fallut s'adapter à une étrange nourriture. Mais, au bout de tous les comptes, il trouva là ce qu'il recherchait depuis la mort de son père et de sa mère au milieu des fièvres, une compétence dans le diagnostic des maladies et une expertise dans l'administration des médicaments. Le temps expiré, il reprit le bateau pour Lagos, où il s'étonna de la chaleur équatoriale. 3 jours après, son hameau natal, Ambrousse, fêta dignement le retour de son savant, très entouré d'amis, de sœurs, d'admirateurs. Sous l'arbre au palabre, famille et alliés ne cessèrent de lui demander de décrire l'Angleterre, son herbe et ses arbres, ses paysages de neige, les mers froides, les repas des habitants, les automobiles, tout enfin. À cette époque, c'était dans les années 30, et sous ces latitudes, ni les journaux ni la radio ne parvenaient aussi loin. On y transmettait les nouvelles oralement seulement. Et devant les visages étonnés, il en a usé de la salive à dire interminablement tout ce qu'on lui demandait. Mieux, le jeune Abbas s'est régalé de ses journées de gloire. Il en a profité avec gourmandise, car le lendemain, bien sûr, il faudrait de nouveau se mettre à panser, piquer, ligaturer, avec toutes les compétences acquises. Mais celui à qui revient la renommée fait toujours quelque jaloux. Un soir, après la sieste, au moment où le soleil commence à décliner, un sorcier vient l'interroger sur des choses si obscures et compliquées qu'à plusieurs reprises, le vieux maître, avec une sournoise ironie, prend le jeune scientifique revenu de loin en flagrant délit d'ignorance. Sous les rires de l'assistance, la gloriole, peu à peu, se retourne au profit de son rival, qui en sourit de suffisance et d'aise. Alors, ivre de vengeance, Abba décide de reprendre l'avantage. « Sais-tu, ô puissant sorcier, à quel point les prêtres d'Écosse l'emportent sur les nôtres en puissance et combien ils nous dominent dans la maîtrise des phénomènes naturels ?» Il avait prononcé ces 3 mots avec emphase. Fasciné de ce vocabulaire, la population se dispose de nouveau à l'écouter. Les principales cérémonies mystiques se déroulent pendant les après-midi du samedi. Des dizaines de milliers de femmes et d'hommes se réunissent dans d'immenses temples à ciel ouvert où ils se mettent « Ouh, ouh !» à psalmodier des prières préalables vers le firmament. Au bout d'un certain temps, sur la prairie rectangulaire, verte, paysage merveilleux au milieu des gradins où la foule s'assemble et s'assied, entrent 15 jeunes enfants de cœur en culotte blanche et en tricot rouge. La moitié des spectateurs se lèvent alors avec un premier cœur « Wouh, wouh !» et 15 autres assistants les suivent et prennent place en face des premiers, dispersés sur le même pré, habillés eux aussi de culottes blanches, mais avec des tricots noirs. Deuxième cœur, plus percutant que le précédent. L'hymne noir répond au cantique rouge. Mais vous n'avez encore rien vu. À ce moment-là, se présentent les 3 grands prêtres de la religion écossaise. Le vieux marabout, aux cheveux souvent gris, tout de noir vêtu, et à qui, visiblement, tout le monde obéit, entouré de 2 acolytes qui se séparent de lui et courent pour garder, avec des drapeaux triangulaires, les côtés du pré-sacré. Le vieux marabout, alors, se place au centre du paysage, sur des lignes blanches tracées au sol, pour examiner chaque côté bien comme il faut, à gauche et à droite. Il tient à la main les 2 instruments du culte, une sorte de vessie de cuir gonflée de forme ovale qu'après avoir présenté au ciel, il confie au chef des enfants de cœur rouge qui la pose par terre, droite sur sa pointe, au centre exact des lignes blanches. Et deuxièmement, un petit sifflet d'argent qu'il tient à la bouche et qui lui sert droite sur sa pointe, au centre exact des lignes blanches. et deuxièmement, un petit sifflet d'argent qu'il tient à la bouche et qui lui sert à commander aux éléments. Tout le monde se lève pour une dernière prière. Si vous entendiez cette ferveur, vous en seriez émus tous. Oui, c'est à ce moment précis qu'intervient le miracle. Oui, j'ai assisté, souvent moi-même, témoin stupéfait à cette merveille. Un événement extraordinaire, vraiment miraculeux. Et tout en déclamant la suite, Odoumé foudroie de ses yeux étincelants son adversaire en gloire. Car aussi savants et religieux que nous nous prétendions, nous autres Nigérians n'avons pas d'équivalent. Constatant que chacun retient son souffle et jouissant de ce bel effet, il s'arrête un moment. Suspense ! Oui, placé au milieu du paysage vert, bien découpé dans le temple ovale, le vieux marabout lève le bras droit et dans le silence général soudain revenu, de son sifflet sacré tritire un son strident. Alors, à cet instant même, il se met à pleuvoir. Qui parmi nous réussit aussi régulièrement cet exploit ? Triomphe incontestable des sciences et de l'Occident. Le sorcier quitte la place, tête basse. C'était donc le savant et le sorcier, une de ces nouvelles du monde que nous a écrite Michel Serres il y a une vingtaine d'années et qui, parce qu'elles sont anciennes et parce qu'elles nous révèlent en effet un petit peu la sagesse du monde, sont toujours d'actualité. On aurait pu vous en lire d'autres. Il y avait un certain nombre d'historiettes qui concernaient ce que j'appellerais plutôt des apprentis sorciers. Mais bon, restons dans un petit peu plus proche de notre réalité du quotidien. Revenons à Marseille. Nous ne serons pas là la semaine prochaine pour l'émission. Nous vous enverrons une rediffusion. Et puis, un peu plus tard, eh bien, nous reviendrons pour justement d'autres histoires. Alors, consultez les programmes, sortez, faites la fête, allez prendre le soleil et à bientôt.
À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.